Histoire de voix, une série des médias francophones publics, présentée par Anne Dorval et signée Francis Legault.
Il y a des voix qui fredonnent doucement à l'oreille de leur enfant endormi, et celles qui hurlent dans leur douche. Mais il y a aussi les voix fortes et vibrantes qui rêvent de chanter sous les projecteurs. Ces voix qui font les belles heures des concours de chansons et gravent dans nos cœurs des souvenirs impérissables.
Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effaillent les rêves pour nous donner un monde d'amour.
Fabian connaît bien les concours de chansons. En 1988, elle représente le Luxembourg à l'Eurovision. Puis, elle devient une des coachs préférées des émissions Star Academy, The Voice en France et La Voix au Québec.
Mais écoute, du premier au dernier qui existe sur cette planète, ça a toujours été des vitrines. Ça a toujours été de belles étals qui ont permis aux gens, sans être obligés d'acheter tout de suite, de te connaître. Un peu, de te regarder, de t'observer, puis de t'aimer sans forcément rentrer directement dans une relation avec toi. Ou non, ça permet le choix. Hein. C'est pour ça que cette chaise rouge a tellement de succès dans le monde entier, parce qu'elle permet le choix. Et elle permet le choix dans les deux sens. C'est ça qui est formidable. Et puis ça permet à tout le monde de rêver un peu que peut-être c'est accessible pour eux aussi.
Le contre-ténor, Philippe Jarouski.
Ce que je trouve miraculeux dans le chant, peut-être plus qu'un instrument, c'est cette capacité en tant qu'être humain qu'on peut avoir de chanter de façon instinctive, naturellement. Il y a des gens qui chantent beaucoup, qui n'ont jamais pris un cours de technique vocale et qui ont cultivé une aisance vocale par le fait de le faire de façon instinctive qui est assez bluffante. C'est quelque chose qu'on peut moins reproduire au violon ou au piano, où là, il faut quand même, si on veut arriver à un bon niveau, prendre des cours, comprendre la technique. Le chant, il y a quelque chose de tellement immédiat, de tellement connecté à soi, qu'il y a des gens qui chantent, on ne sait pas d'où ça vient. Enfin, moi, par exemple, je suis toujours aussi fasciné, on parle du classique, mais j'imagine qu'il y a aussi au Canada The Voice, non, par exemple.
Oui, sauf qu'on l'a traduit par La Voix.
Voilà, vous avez fait mieux qu'en France. Mais moi, je suis toujours fasciné de voir The Voice ou La Voix ou des émissions comme ça de télécrochet où on découvre plein de candidats qui chantaient juste chez eux avec une guitare et qui arrivent avec des voix absolument bouleversantes, magiques et capables déjà de prouesses techniques. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont capables, de, je dirais, de façon assez naturelle, d'augmenter leur capacité énergétique, vibratoire, quand il chante, il se transforme. Et c'est pour ça que probablement ils aiment chanter parce qu'ils se sentent mieux en le faisant. Et j'ai l'impression que chanter pourrait être aussi une forme de refuge, une forme de pour tout le monde. Hein. Là, je vraiment j'encourage toute personne à chanter parce que c'est vraiment une façon de cultiver ta différence, son jardin secret. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans le chant qui est très libérateur.
Moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance.
En 2013 et 2014, la chanteuse Natacha Saint-Pierre a été coach et jurée à l'émission The Voice Belgique.
J'ai aimé cette expérience-là de coach dans The Voice en Belgique parce que on était très impliqués. On n'est pas juste là pour décorer en Belgique, comme ça peut être le cas dans d'autres pays. On coach vraiment. Et la seule chose que moi, je pouvais leur apporter, c'était savoir ce qui fonctionne dans le métier et ce qui ne fonctionne pas dans le métier. Et ça n'a rien à voir avec la qualité d'une œuvre ou d'un artiste. C'était de les guider vers quelque chose qui allait plaire à la masse, parce que c'est un concours. Mais après, ça ne veut pas dire que ce qu'il faut faire dans la vie, c'est ce qui plaît à la masse. Mais ce qu'il faut faire pour gagner un concours, c'est ce qui plaît à la masse. Et mon travail, il était là. Il était de trouver un équilibre entre ce qui plaît à cet artiste, qui est dans mon équipe, et ce qui plaît à la masse.
Comment tu as fait pour guider, sans pour autant dénaturer l'artiste et sa voix?
Peut-être que j'en ai dénaturé certains en essayant de guider, je ne sais pas, j'espère que non. Mais peut-être que certaines personnes ne se sont pas retrouvées dans mon équipe. Je pense qu'on ne peut pas... Il n'y a pas de parent parfait, il n'y a pas de coach vocal parfait. Le seul secret, c'est d'essayer d'écouter, d'entendre. Parfois, on entend un peu plus loin que ce que l'artiste nous dit, c'est-à-dire que on comprend ses craintes, mais on sait que s'il dépasse ses craintes, ce sera génial. Et il faut trouver le juste milieu entre ceux qui sont prêts à être un peu bousculés et ceux pour qui être bousculés, ce serait les faire tomber.
Les enfants font une farandole et le vieux maître est tout ému. Demain, il va quitter sa chère école. Sur cette estrade, il ne montera plus. Adieu, monsieur le professeur. On ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots.
L'importance de la transmission pour Lara Fabian.
C'est vrai que la lumière est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Oui, ça c'est vrai. Tout comme l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Mais parfois quand même, parfois il y a des petites choses que tu peux passer, que tu peux donner, tu vois que la lumière s'allume dans le regard de l'interlocuteur et qu'il capte, il se dit « Ok, si je passe par cette porte-là, je devrais peut-être pas faire tout ce grand détour. » Donc c'est ça qui m'a plu, c'est pouvoir être utile en fait, pouvoir contribuer et me dire que ce que moi j'avais accumulé comme expérience, que moi j'avais vécu comme douleur ou comme sacrifice faisait sens. Et c'était ok, même c'était parfait. Heureusement que je les ai vécues, parce qu'elles me permettaient aujourd'hui, demain, après-demain, de donner quelque chose à l'autre qui va peut-être accélérer un petit peu cette expérience.
Et qu'est-ce qui t'émeut chez ces jeunes voix qui émergent ?
La disponibilité. Le cœur ouvert, l'esprit ouvert, leur à quel point ils sont d'accord de vivre une expérience. Je vois très peu d'hermétisme. Et ça, je crois que c'est quand on commence à processer tout par la pensée que l'hermétisme prend racine. Ils ne sont pas encore là. Et quand je suis face à eux, il n'y a pas ça. Il y a un terreau et un terrain tellement pur, tellement beau, tellement disponible à l'expérience que si on travaille avec eux depuis un espace honnête, simple, animé par beaucoup, beaucoup d'amour et de compassion, il peut se passer des petits miracles.
Et je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi, je trouve qu'il y a une beauté dans la foi de ces jeunes voix-là, parce que de vouloir chanter alors que tout va mal ou tout semble mal aller dans le monde, ça prend une foi, non?
Heureusement. Mais heureusement qu'il y a encore des êtres qui croient et qui ont foi dans le fait que le chant, la voix, la musique pourra faire la différence. Heureusement. Mais sinon, tout va vraiment s'éteindre. Ce serait terrible.
Je t'ai vu.
L'animateur et producteur des émissions La Voix et Star Academy au Québec, Jean-Philippe Dion.
Dès le premier moment en audition, quand on entend une voix différente, c'est le plus beau moment de notre vie. Parce que c'est très rare quand même d'arriver dans un processus d'audition. On peut voir 4000, 5000, en fait, on peut entendre 4000, 5000 voix. C'est très rare que vraiment là, on va découvrir un talent qui sort de nulle part. Tu sais, parce que souvent, les voix se ressemblent quand même. En ce moment, on entend beaucoup de jeunes filles qui chantent comme Charlotte Cardin, de jeunes garçons qui chantent du country comme les grandes stars du country en ce moment. Tu sais, évidemment, je pense que c'est le propre de tous les jeunes. À peu près, quand tu commences, tu écoutes beaucoup de musique, puis tu trouves que la voix de l'artiste que tu aimes est intéressante. Donc, tu finis par chanter comme cet artiste-là. Donc, notre but, nous, c'est toujours de découvrir des voix qui sont uniques, qui ne sont pas justement copiées, comme ça a été le cas cet hiver avec Mia Tiner à Star Academy. On réalisait vraiment qu'on venait de découvrir un diamant brut, là. C'était une voix, tu sais, d'une jeune de 16 ans, mais qui chantait comme Janis Joplin, comme une femme qui avait bu, qui avait fait la fête, qui avait fumé des cigarettes pendant des années, mais c'était une jeune qui avait même pas encore son diplôme de secondaire 5. Donc ça, pour nous, c'est très révélateur, ce genre de moment-là.
Au printemps dernier, à la finale de Star Academy sur TVA, Mia Tiner a 16 ans.
Quand ça balance, on est deux, le jazz et moi. Je crois même qu'on est trois. La contrebasse, la batterie, le jazz et moi. Ça fait déjà plus que ça. Le vibraphone, les trombones, le jazz et moi. Quand on s'est donné le... Il ne manque plus que les trompettes et puis voilà. Ça me cogne dans les doigts. Mon drapeau, ma Bible à moi. Dès que le tambour est là, alors encore une fois. Quand ça balance, alors là je suis chez moi. Bidi 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 bidi, c'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Dès que le tambour est là, bidi 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 bidi. Quand
À peine remise de son expérience à Star Academy, la toute jeune Mia Tiner.
Je pense que je ne m'étais jamais vraiment mis en tête que j'allais me rendre là puis gagner pour de vrai, tu sais. Mais dès que je me suis inscrite à Star Ac, je me suis dit que ça va être une opportunité pour moi de rencontrer des gens qui sont comme moi. Je trouvais ça cool d'être capable de communiquer avec du monde qui ont la même langue que moi un petit peu, qui est la musique. Là, que, ouais.
Qu'est-ce que la voix chantée te permet que la voix parlée te permet pas?
Je pense que les mots parlés, la voix parlée, c'est différent que quand tu la chantes parce que chanter, c'est les vibrations. Chanter, c'est les émotions qui traversent tout ton corps au complet. Fait que ça va sortir beaucoup plus puissant. Ça sort plus cru quand c'est en chantant parce que ça vient cogner au bon endroit. Je sais que moi, c'est une façon de me libérer. Moi, c'est une façon de parler, c'est une façon de m'exprimer. C'est ma façon à moi de dire ce que j'ai besoin de dire.
Comment on fait pour trouver sa voix? Est-ce que tu as trouvé ta voix, selon toi?
Non. Moi, je pense que ça prend plusieurs temps avant de trouver sa voix pour de vrai. Tu peux essayer des voix, mais je pense que le monde qui vont trouver leur voix, ça va être leur voix jusqu'à ce qu'ils meurent. Ma voix, moi, je suis encore en train de la chercher parce que je suis encore dans mes expériences de vie. Fait que ça va me prendre un bout, mais tu sais, on s'en parle dans 10 ans, genre.
De tous les concours de chant, l'épreuve reine est sans contredit l'Eurovision. En 2001, Natacha Saint-Pierre représente la France à Copenhague.
Je ne vais pas y aller dans le but de gagner, mais une fois que je suis là, j'entends tellement que je fais partie des meilleures prédictions, qu'il y a énormément de paris sur moi, parce qu'on parie sur les chanteurs de l'Eurovision comme sur des chevaux. Il y a des sites de pariage en ligne et tout, et je suis un très bon cheval sur les sites de paris. Donc, je vais commencer à y croire. Et le problème, il est là.
Vocalement, comment tu te sentais?
Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très étrange, mais j'ai toujours eu une confiance infaillible en ma voix. Elle ne m'a jamais trahi. J'ai malgré tout peur de ne pas être à la hauteur. Et moi, ça a toujours été plutôt physiquement, ma peur. Peur de mal occuper la scène. Je n'ai jamais eu une grande confiance en moi d'un point de vue physique. Et du coup, j'ai peur de pas être assez habitée, assez présente, assez charismatique, assez jolie. Ce qui va me lâcher, c'est ma respiration. Et le stress va faire que, comme dans toute situation stressante, notre respiration se raccourcit. Et comme j'ai peur, elle se bloque et j'ai la respiration plus courte. Et donc, les notes que je sais que je peux faire seront moins longues, seront moins excellentes. Il y aura même un petit vibrato que je ne contrôle pas, parce que ce que je ne contrôle pas, ce n'est pas ma voix, c'est ma respiration. Et la voix, c'est un instrument avant.
À ce moment-là, à l'Eurovision, t'en es consciente pendant que ça se passe ou pas?
Pendant que je suis en train de chanter, je suis consciente que j'ai le souffle coupé, que mon diaphragme est bloqué, qu'il y a ce tremblement musculaire, cette raideur musculaire qui va donc se ressentir dans la voix. La voix, c'est vraiment pas que les cordes vocales. C'est beaucoup d'autres choses. Et moi, à ce moment-là, ma raideur musculaire et mon souffle coupé vont jouer sur ma voix.
Mais je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Oh, juste mon âme et ma voix, si fragile flamme au bout de mes doigts, dérisoire ça. Si tu dis que je fais partie de toi, que notre histoire nous suivra pas à pas,
La performance de Natacha Saint-Pierre à l'Eurovision est plus qu'honorable. Mais la quatrième place qu'elle obtient à l'époque ne la satisfait pas.
L'après Eurovision a été difficile pour moi parce que je n'avais jamais appris à perdre. Ça paraît fou quand on dit ça comme ça. Ben, évidemment que j'ai déjà perdu aux échecs, que j'ai déjà perdu dans un match de volley. Mais j'ai jamais eu de grosses défaites dans des choses dans lesquelles j'avais mis du cœur. Et pour la première fois, je vais perdre. Et il y a une part de la personne qui est sur scène qui est moi-même à ce moment-là, mais il y a aussi une grosse part qui est créée par ceux qui veulent cette chanteuse. Et j'ai laissé les gens créer ce personnage, et ce personnage en plus ne m'a pas amené la victoire. Donc je suis doublement perdante. Je suis pas gagnante d'un point de vue vocal, et je suis pas gagnante d'avoir été moi-même. Et ça, c'est aussi un chemin qu'on apprend, je pense, quand on fait ce métier-là. C'est, on va par moments essayer de se modeler à ce qu'on pense que le public attend de nous, à ce qu'on pense que nos équipes attendent de nous. Et peut-être qu'ils attendent en réalité ça. Mais quand on fait quelque chose dans le but de plaire et qu'il ne plaît pas, on a doublement perdu. Parce qu'on n'a pas la satisfaction de l'œuvre accomplie dans laquelle on s'est épanoui, et on n'a pas la satisfaction du succès. Donc c'est un double échec. Et j'ai compris, bien plus tard, que la vraie façon de ne jamais perdre, si une telle notion est entendable, c'est de toujours être vrai et de toujours créer avec son cœur, parce que si on rencontre le succès, c'est une double victoire. Je vais m'être fait plaisir, et en plus, je vais avoir un succès, soit d'estime, soit commercial, quel qu'il soit.
Pour les francophiles, un des grands moments de l'Eurovision est assurément l'édition 1988, où Céline Dion défend les couleurs de la Suisse. Jean-Marc Richard, qui a été commentateur de l'Eurovision sur la RTS pendant 34 ans, se souvient.
En 1986, un compositeur qui vit en Suisse, mais qui est d'origine turque, Attila Sereftug, compose une chanson pour la Suisse. Il termine deuxième avec sa chanson, et deux ans plus tard, son manager l'appelle en lui disant « faut que tu refasses une chanson, c'est important, mais cette fois-ci, tu dois en faire une pour gagner ». Il se rend à Zurich, où se trouve son manager, qui lui propose toute une série de vinyles à écouter, ainsi que quelques cassettes, je crois. Et puis, sur la couverture de ces vinyles, évidemment, il y a le visage ou le profil des chanteuses ou des chanteurs. Il en écoute tout plein. Et puis, le dernier, c'est celui d'une certaine Céline Dion qu'il écoute. Et il dit à son manager, « Je veux cet artiste. Je veux écrire une chanson pour cet artiste. » Et son manager lui dit, je cite, « Non, mais t'as vu sa tête ? Franchement, ce serait mieux de prendre la polonaise que t'as écoutée il y a un moment donné, qui a aussi une belle voix. » Et Attila Sereftug dit, « Non, cette voix, j'en ai jamais entendu une comme ça. » Il me faut la voix de Céline Dion. Donc, ils envoient un mail ou un courrier à l'époque pour demander à Céline Dion si elle est d'accord de participer. Elle répond par la voix de René Angélil qui dit « Non, ça nous intéresse pas ». Du coup, Attila Sereftug réfléchit quand même. Il repense à la voix de Céline Dion et un matin, il se lève et il compose cette chanson « Ne partez pas sans moi » en pensant à la voix de Céline Dion. Il envoie tout cela à René et à Céline. Et en fait, il y a une réponse positive. René lui dit « Débarquez à Montréal dans la semaine. » Il restait peu de temps avant le délai pour présenter cette chanson à la candidature suisse. Il y va. Il raconte du reste que quand il est arrivé, ils avaient une voiture tellement pourrie que quand on fermait une porte, il y avait toutes les autres qui s'ouvraient. Lui qui est turc, il l'invite dans un restaurant grec. Enfin bref, et en une prise, ils enregistrent la chanson. Il revient en Suisse. Il présente cette chanson pour la sélection suisse. Elle est acceptée. Et il y a une finale à Morges, dans la région lausannoise, que gagne Céline Dion, et c'est que, comme ça que commence l'aventure, en fait, de Céline Dion à l'Eurovision, et je pense aussi une bonne partie de l'aventure de Céline Dion tout court.
Le film Céline Dion, La note parfaite, raconte l'incroyable aventure de la chanteuse québécoise à l'Eurovision. Dans ce documentaire produit par Padrino Film, on y voit une jeune Céline Dion pleine de confiance. On découvre aussi comment elle a été influencée par la gymnaste Nadia Comaneci lors de sa performance aux Jeux olympiques de Montréal en 1976.
Je suis quelqu'un de très compétitif. Ça fait partie de la game dans un sens parce que si on n'est pas compétitif et qu'on n'est pas fort de caractère, qu'on n'est pas vraiment passé par-dessus des choses, on ne sera pas rendu ce qu'on est rendu aujourd'hui.
First country to host the Eurovision Song Contest in 1956, and I wasn't even born, was Switzerland.
One day when the Olympics were happening in Montreal, Nadia Comaneci came and scored a perfect 10, and I remember watching.
Les notes parfaites de 10 obtenues par Nadia Comaneci donnent à Céline Dion l'envie du dépassement.
And she almost changed my destiny. Suddenly I wanted to become a gymnast. I wanted to be as good as Nadia Comaneci, and I knew I could have the guts and the will and the discipline of making it. And then, well, instead of holding a bar, I was holding a microphone.
Avec dérision, Céline conclut en disant qu'à la différence de Nadia, ce ne sont pas des barres asymétriques qu'elle tient dans ses mains, mais un micro.
C'était juste une année absolument incroyable. Hein. Il y avait Gérard Lenormand, il y avait Lara Fabian, il y avait Céline Dion. Et cette année-là, on sent vraiment que c'est la voix qui peut faire la différence. Et pas seulement la chanson. La chanson est très belle, mais les autres chansons étaient aussi très belles. Mais la voix de Céline Dion, elle dépasse toutes les autres voix. Même si, il faut quand même rappeler que cette année-là, Céline Dion, elle n'a gagné que pour un seul point. Hein. Avant le dernier vote, elle avait un point d'avance sur la Grande-Bretagne et il y avait encore l'attribution, comme c'est toujours le cas à l'Eurovision, des 8 points, des 10 points et des 12 points. Et tout le monde pensait que c'était la Grande-Bretagne qui allait gagner, et non. C'est la Suisse qui l'emporte et c'est Céline Dion surtout qui l'emporte.
Die 20-jährige Céline bringt den Grand Prix Eurovision nach 32 Jahren wieder in die Schweiz zurück und schauen Sie sich den Attila an, wie er sich freut.
Vous qui cherchez l'étoile, vous qui vivez en rêve. Héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous donnez-moi ma chance.
Pour quelques oreilles capricieuses, la puissance et l'amplitude vocale semblent suspectes. Au début des années 2000, dans certains milieux français, il est de bon ton de casser du sucre sur ce qu'on appelle alors la vague des chanteuses à voix du Québec. L'expression suinte le mépris et fait référence aux voix puissantes des Lara Fabian, Natacha Saint-Pierre, Isabelle Boulay et plus particulièrement à la voix de Céline Dion. Toujours prête pour le combat, la journaliste Denise Bombardier, au micro de Christiane Charrette en 2009.
Il y a chez les Français du Céline bashing comme il y a du Céline bashing au Québec. Il y a des gens qui aiment, qui adorent détester Céline Dion, ici et en France, avec une cruauté. De la part des Français, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que de la part des Français, c'est que les Français n'ont jamais eu une vedette planétaire. On a beau parler...
Edith Piaf, quand
non,
même.
Non. Edith Piaf était connue dans des milieux très cultivés sur la terre, de gens qui connaissaient la culture française. C'était dans la bourgeoisie culturelle des pays. Et puis, en plus, il n'y avait pas le même système médiatique. Donc, c'était pas la même chose. C'est la première fois que quelqu'un de langue française, je pense que les Français, ils y croient pas. C'est comme si ça se peut pas que ça soit quelqu'un de langue française. Et au Québec, ben alors c'est tout notre passé aussi. Mais remarquez, je dis ça, c'est dans des médias, parce qu'il est évident que dans la population, Céline est infiniment aimée au Québec. Il fallait voir. Le problème avec Céline et sa famille, les Dion, c'est qu'on en parle, les gens disent on en parle trop, ben oui, mais c'est parce qu'on n'est pas 375 millions comme aux États-Unis. Et aux États-Unis, des mégastars, au moins, il y en a quelques-unes. Ils peuvent changer de thème. Mais nous, il n'y en a qu'une.
Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Mon cœur est grand, comme le vent, et je suis douce comme l'eau.
Le temps est bon en cette fin d'après-midi à Paris. Avec un zeste de mauvaise foi, le metteur en scène Serge Denoncourt et la grande reporter au journal Le Monde, Annick Cogent, échangent sur les chanteuses québécoises et les chanteuses françaises.
Moi, l'énigme, c'est que vous nous envoyez des chanteuses qui susurrent, qui ne sont pas des chanteuses, qui n'ont pas de voix. Et ça nous fait hurler de rire, nous.
C'est vrai?
Mais hurler de rire, parce que... je sais pas, Carla Bruni, par exemple, j'aime beaucoup ses textes, mais sa voix, elle a pas de voix. Tout le monde dit, oh, la grande chanteuse. Vous avez des grandes chanteuses qui ne savent pas chanter.
Mais comment tu peux dire une chose pareille? Comme si chanter, c'était un concours d'organes, comme s'il fallait montrer absolument de la puissance. C'est pas ça, chanter. Chanter devrait être une caresse musicale, quelque chose de très doux à nos oreilles. C'est une caresse mise en musique, en gros. C'est ça, une chanson. Et je me dis, pourtant, peut-être que ça a à voir avec les paysages du Québec. Peut-être que quand on vit dans un pays où il y a de ces grands espaces, peut-être que dans un pays où il y a des forêts immenses, on a pris l'habitude, peut-être que c'est dans les gêne, de pousser sa voix, d'exercer ses poumons pour que ça traverse les forêts, que ça arrive jusqu'à la plaine suivante.
Alors, si je suis votre logique,
oui.
Edith Piaf hurle.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis obligée de reconnaître et ça n'est pas du tout ma chanteuse préférée. Voilà, je préfère... Alors, tu vas te moquer, bien sûr, mais je préférais Françoise Hardy. Bah oui.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
Il y a des hurleuses, ça existe.
Oui.
Il y en a.
Ah, tu es d'accord.
Il y en a que j'aime pas.
Et particulièrement au Québec, non?
Bah, aux États-Unis aussi.
Oui, c'est vrai.
La culture américaine, en fait, moi je pense que c'est
ça. Oh, il y a de tout, de parce qu'il y a les crooners américains qui te savaient quand même avoir des voix de
toute
plus lourd.
Cette génération de chanteuses à grosse voix,
ouais,
dont fait partie Céline Dion, mais Whitney Houston.
J'ai fait une exception pour Céline.
Ah bon?
J'aime Céline. J'aime Céline, elle peut faire n'importe quoi. De toute façon, elle me fait craquer, elle me fait fondre. Elle est le Québec que j'aime, avec sa fraîcheur, sa naïveté parfois, sa gentillesse.
On est peut-être d'accord sur un truc. Pour moi, le meilleur album de Céline, c'est celui qu'elle a fait avec Jean-Jacques Goldman.
Oui, c'est vrai.
Où elle ne hurle pas du tout.
Non, c'est vrai. Enfin, elle chante fort. Mais elle a cette belle voix. Non, je te l'accorde. De toute façon, je n'accepterai, je défends Céline bec et ongle tout le temps. Voilà. Donc,
okay.
on la met à part. Mais il y a plein de clones. Et ça, j'ai l'impression que vous nous avez, à un moment donné, exporté plein de clones de Céline.
Alors, on ne les a pas exportés, vous les avez adoptés.
C'est un peu vrai.
C'est ceux dont on ne voulait plus. Non,
tu
c'est pas vrai. C'est
oui,
pas vrai.
Oui, mais vous les avez.
Mais vous les avez adoptés. Moi, je pense qu'Isabelle Boulay est une des plus grandes voix du monde parce que je trouve justement pas qu'elle pousse jamais. Et je comprends que les Français l'aiment beaucoup parce que même quand elle chante Reggiani, elle les chante bien. Elle les chante pour moi.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidée à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune.
Par contre, nous, on dit de vos chanteuses, et je vais prendre la plus grande, ma préférée, Juliette Gréco.
Ah.
Mais c'est une diseuse.
Non, c'était une chanteuse.
Ah non.
Mais non, elle a quelquefois été comédienne, mais c'était une chanteuse. Et pour toi, parce qu'elle ne chantait pas fort, tu veux dire ?
Mais parce que c'était une diseuse.
Mais non, c'était pas du tout une diseuse. Moi, j'ai vu des récitals de Juliette Gréco.
Mais moi aussi.
C'était absolument merveilleux, c'était pas du tout une diseuse. Simplement, elle articule, les chansons qu'elle choisissait, effectivement, ont un sens, avec une poésie.
C'était formidable. Mais c'était formidable. Il n'y avait pas de grande mélodie, il n'y avait pas de grande note, il n'y avait pas de grands moments musicaux. C'était le texte à l'avant.
C'était la forme. De son propos,
ouais.
C'est vrai, la façon dont elle le faisait et la façon dont elle chantait.
Ouais, elle chantait pas.
C'est terrible de lui retirer ce qui était sa caractéristique, enfin.
Déshabillez-moi, c'est presque parler, ça.
Déshabillez-moi.
C'est presque parler, c'est une diseuse.
Non, tu prends évidemment cette chanson où à un moment donné, elle a l'air, effectivement, elle récite. Mais très vite, elle reprend le ton et puis il y a plein d'autres chansons qui sont formidables. Enfin, c'est pas parce qu'on chante Prévert et qu'il y a quelques notes de musique que tu vas lui retirer simplement parce que c'est Prévert.
Non, mais tu peux être une grande diseuse.
Mais enfin.
Et une mauvaise chanteuse.
Mais enfin, arrête de jouer avec les mots tout de même. Elle chantait.
C'est une Française qui me dit ça à moi d'arrêter de jouer avec les mots.
Oui, parfaitement. Non. Oui. Monsieur, parfaitement. Vous êtes tout à fait de mauvaise foi.
Non.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver.
Ok, mais amusons-nous culturellement. Fréhel, c'est chez vous, ça?
Oui, c'est vrai. Oui, bon, j'aime pas du tout Fréhel. Oh, bah oui, j'ose le dire. Ma grand-mère, sans doute, aimait Fréhel, mais...
Parce qu'elle hurlait.
Mais pas moi.
Donnez-moi de la coco.
Oui, c'est vrai. Oh, tiens, tu l'as fait pas mal. Mais je sais pas où sont les... J'ai adoré Diane Dufresne.
Bon, ben...
Mais alors, la folie, Diane Dufresne, son extravagance, ses gestes, ses costumes, et puis c'est la musicalité de sa voix. Elle n'avait pas besoin de pousser pour nous entraîner dans un univers. On la suivait, elle nous prenait par la main.
La chanteuse qui hurle le plus avec talent, avec un choix artistique, c'est Diane Dufresne.
Non, elle hurle pas, Diane Dufresne. Bah, on peut pas dire qu'elle hurle, enfin, vraiment, alors là, je comprends plus. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Aujourd'hui, au grand soleil, en plein midi. C'était merveilleux.
Okay, moi, je vais répondre à ça.
Ah oui, alors réponds.
Donnez-moi de l'oxygène.
Donnez-moi de l'oxygène. Donnez-moi de l'oxygène.
Oui, d'accord. D'accord, ok, c'est une réponse. C'est une réponse, alors on va passer sur notre chanteuse.
Carla Bruni, moi j'écoutais en boucle à quelqu'un qui m'a dit, alors que j'avais une peine d'amour, oui. J'ai pleuré ma vie en écoutant Carla Bruni. Ben jamais voilà. Je vais dire que Carla Bruni, c'est une voix.
Mais si c'est une voix, c'est pas une grande voix, mais c'est une voix. Qu'est-ce que ça veut dire de tout confondre? Alors pour toi, voix, systématiquement, ça veut dire grande voix, forte voix, hurlement.
Ça veut dire voix.
Capacité, organe.
Non, mais pas
en
hurlement.
J'ai l'impression que pour toi, ça veut dire organe. Voilà.
Alors, je vais... qui peut le plus, peut le moins.
Non, je crois pas. Alors, voilà. Excellent comme argument. Ah. Je pense que c'est faux. Et en y pensant tout à l'heure, je me disais, mais au fond, je choisis souvent mes restaurants, non pas en fonction du menu, mais de l'ambiance. Et notamment de l'acoustique du restaurant. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne dira pas s'il faut les hurler à son voisin ou à son interlocuteur. C'est pas possible. Donc ça veut dire que si tu rentres dans un restaurant où il va falloir parler très fort, tu élimines tout de suite un certain type de conversation.
Ouais.
Conversation de l'ordre de l'intime, conversation de sentiments, tu ne pourras pas parce qu'il va falloir crier. Et bien, je pense que c'est pareil. Quand tu veux exprimer des émotions, des sentiments par la chanson, si ça passe par des cris, ça n'est pas possible, ça n'est pas crédible.
Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais. Encore, me l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors?
J'en ai une théorie.
Alors dis-moi.
Sur la France. Par rapport à ça. Les Québécois, on n'est plus latins, étrangement.
Ah bon?
Ouais. Comme les Napolitains, comme les Italiens. Donc on gueule notre amour, on gueule notre souffrance, on gueule notre joie. Moi, je travaille avec des acteurs, des chanteurs français. Ça passe quand même, le premier passage, le premier point de passage, c'est la tête, c'est l'intellect. Presque tout le temps.
Je crois pas. C'est vraiment ce que tu observes?
Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Ça veut pas dire que ça va pas descendre dans les entrailles à un moment, mais une Napolitaine, une Québécoise, tout de suite, elle y va dans les entrailles. Le français, la française, artiste, il a besoin de comprendre ce qu'il est en train de faire pour bien le faire. Mm-hmm. Et c'est peut-être ça qui empêche de gueuler. Il y a une espèce de fil...
De frein.
D'inhibition,
ouais. Tu dirais que ouais. Toujours cette volonté de contrôle.
Moi, je pense que oui. Le mot, le sens, l'emporte sur les faits. Là, c'est un compliment qu'elle n'en a pas l'air d'un, mais le sens...
Non, ça n'en a pas l'air, tout à fait, ouais. Parce que quand même, là, on parle d'artistique, donc franchement, ouais. C'est un compliment très, très biaisé. Excuse-moi, mais...
Quand Jacques Brel fait « Dans le port d'Amsterdam », est-ce qu'il gueule?
C'est fort, en ouais. Effet. C'est assez fort, en effet. Mais c'était son registre. Et puis, il y a d'autres choses qu'il nous a apportées. D'abord, il n'a pas toujours gueulé, non plus Jacques Brel. Donc, il y a chanson et chanson.
Tu m'as accordé Céline Dion.
Oui, ah oui, mais facilement. C'est même moi qui l'ai revendiqué ouais. Avant toi.
La première fois qu'on a entendu qu'elle gueulait, c'est en France.
C'est vrai?
Ouais.
C'était les premières réactions, peut-être. Ouais. Oh mon Dieu, mais tu me parles de la pire émission. On disait n'importe quoi, on pouvait s'engueuler, tout ce qui était monstrueux, tout ce qui était presque insultant était ouais. Toléré. Au contraire, il essayait de mettre de l'huile sur
mais
le
nous,
feu.
On avait entendu ça et on était catastrophés.
Mais c'est affreux. Ouais. Ah, non, j'ai très très honte. Enfin, je n'ai pas à avoir honte d'une émission que je n'aimais pas.
On est d'accord?
On est d'accord.
Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire lire au fond de mes pensées? Mais comment font ces autres à qui tout réussit? Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve. Yeah.
Isabelle Boulay.
Pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur quand je dis on m'a pris, on me prend pour une chanteuse à voix, mais écoute, tant mieux. Mais moi, j'ai toujours un peu le syndrome de l'imposteur, tu sais, parce que je me dis, une chanteuse à voix, pour moi, c'est de l'ordre de Céline Dion, hein, parce que c'est des voix qui sont... puis des voix qui, sur lesquelles il y a eu énormément de travail. Et ça, c'est une chose, moi, que j'aurais jamais pu faire. Être une chanteuse à voix, c'est extrêmement périlleux. Et tout tient sur ta voix. Donc, si ta voix est plus complètement là comme avant, c'est comme si tu n'existais plus. Moi, évidemment, je suis capable encore de chanter comme en 95, mais c'est pas beau. Et j'aime pas ça, m'entendre dans cette tonalité-là à l'âge que j'ai. C'est comme si, par exemple, les gens me disent « Oh mon Dieu, tes cheveux roux comme ta mère quand t'avais 22 ans. » Ben oui, parce que mes cheveux roux de l'âge de 22 ans, ben ils étaient colorés avec du henné. Et que si là, je pars de ma couleur naturelle et que je mets du henné, ça va pas donner la même chose. Et je vais juste avoir l'air de quelqu'un qui veut avoir l'air jeune. Moi, j'ai pas envie d'avoir l'air d'autre chose, ni dans ma voix. Je veux pas... Mais je le sais que des fois, ça me fait toujours chaud au cœur quand même. Puis là, je me dis, ouais, Isabelle, t'es peut-être plus une chanteuse à voix dans le cœur des gens que tu penses. C'est que je le sais que certaines notes que tu vas faire, comme quand on attendait que Céline Dion fasse la dernière note du Titanic, ben, tu sais, il y a des gens qui attendent que quand je chante « Parle-moi », je vais faire la note de la fin, puis que je vais... Tu sais, puis là, c'est ça qu'ils attendent. Mais je les comprends d'attendre ça en quelque part, parce que ça les ramène à quelque chose, à un souvenir, et ça les transporte.
Autant que j'y ai cru. Mais je sais qu'il me faut survivre et avancer un pas de plus pour qu'enfin cesse la dérive.
Natacha Saint-Pierre.
Je n'ai pas mal vécu le phénomène chanteuse à voix parce que, pour moi, une chanteuse doit avoir une voix. On a rarement entendu des chanteuses muettes, hein? Donc, voilà. Après, ce qu'on a reproché aux chanteuses, entre guillemets, à voix, c'est de chanter fort, c'est d'être technique, c'est de pousser la voix et d'aller plus loin que simplement de l'interprétation. Et encore là, ça dépend des écoles. Parce que, au Québec... En Belgique, on a toujours aimé les chanteuses à voix. En France, on est peut-être un peu plus poète et on aime peut-être un peu plus les grands discours, les débats, les prises de tête, les questions. Et une chanteuse à voix, c'est pas quelqu'un qui laisse la place à tout ça. C'est quelqu'un qui vient et qui plante son regard dans le tien et qui t'envoie ses capacités, que tu sois prêt ou pas à les accueillir. Et je pense que ça, ça a choqué. Le fait de manquer de pudeur pour une femme, de manquer de discrétion. On demande beaucoup aux femmes, et encore aujourd'hui malheureusement, d'être pudique, délicate, attentionnée, pas faire trop de bruit, dire les bonnes choses. Une chanteuse à voix, ça fait pas ça. Ça fait du bruit. Je pense qu'en tant que femme, si on dit que je suis une chanteuse à voix qui dérange, ça me plaît beaucoup plus que, en tant que femme, être une chanteuse qui fait pas trop de bruit.
N'as-tu pas honte de caresser ces femmes nues? N'as-tu pas honte si ça en est le qui t'a plu? Je pouvais faire au pire si tu l'avais voulu. N'as-tu pas honte de m'avoir volé la vertu? N'as-tu pas honte? Et si tu crois m'avoir connu, tu n'as pas vu le pire. Moi je peux faire plus. Je peux me coucher, me déshabiller, me laisser aller. Je peux les toucher, les embrasser et les caresser. Je peux te montrer que je suis. N'as-tu pas honte de me voir au milieu des hommes? N'as-tu pas honte, moi qui chérissais la madone, toi qui connais le pire? Tu n'as encore rien vu.
C'était Histoire de voix, une série des médias francophones publics. À la narration, Anne Dorval. À la technique, Patrick Knoop. Aux archives de Radio-Canada, Sophie-Hélène Gibson et Suzy Hood. Aux archives de l'INA, Delphine André et Christelle Rousseau. Aux archives de la RTBF, Didier Scatman. Cette émission est signée Francis Legault.